Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Regardez avec moi Matthieu 6 dans vos Bibles, et nous allons une fois encore étudier les leçons que le Seigneur a pour nous dans cette section de l'Évangile de Matthieu, qui est connue comme le Sermon sur la montagne. À ce niveau, je dois vous confesser une chose. Il y a longtemps que nous étudions le Sermon sur la montagne, et là, je suppose, il y a une raison à cela. Dès le moment où je suis entré au séminaire pour la première fois, en 1961, j'ai toujours eu dans mon cœur un profond désir de comprendre le Sermon sur la montagne. J'avais entendu des interprétations différentes du dit sermon, comment il s'appliquait, à quel contexte il appartenait, ce qu'étaient ses objectifs, et il me semblait que je n'avais jamais trouvé satisfaction, et tout au long des journées passées au séminaire, je restais insatisfait par rapport à la compréhension de ce sermon, et j'ai laissé ces années intermédiaires passer, sans faire une véritable étude exhaustive du Sermon sur la montagne. Cela m'a hanté pendant toutes ces années, parce que je crois que c'est la déclaration la plus significative de Christ sur la substance de son message au monde. Cela requiert une attention prioritaire, et parce que tant d'années sont passées, je pourrais encore continuer longtemps, car je remplis un vide de beaucoup d'aspirations entretenues pendant une si longue période de temps. Alors j'espère que vous me comprendrez si nous traitons le sujet de cette manière. Et même, je dois admettre que je vous donne qu'un dixième de ce que j'ai à dire, parce que la richesse de ce sermon est inexhaustible. Ayant ceci en pensée, permettez-moi d'attirer votre attention sur Matthieu 6, 25. Et en lisant jusqu'au verset 34, vous avez le contexte du prochain passage que nous allons étudier dans ce message de notre Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ?» ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, c'est un important passage, et il va constituer l'étude des prochaines semaines. À cause de sa profondeur et de sa richesse, nous aimerions glaner tout ce que nous pouvons de ce texte. Il est ajouté un passage précédent, que j'aimerais aussi lire pour qu'il ait tout son contexte. Vous vous souviendrez que notre Seigneur dit au verset 19 « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Maintenant, vous remarquerez dans ces deux passages que nous avons affaire à des commodités physiques, aux possessions matérielles. Dans le premier, nous parlons d'argent, du verset 19 au 24, ou, comme nous l'avons dit, du luxe, notre attitude vis-à-vis du luxe. Dans le deuxième, les versets 25 à 34, nous parlons de la nécessité, ce que nous mangeons, ce que nous buvons et ce que nous portons. Vous pourriez dire que la première partie est dirigée vers les riches, qui tendent à amasser leur luxe à leur seule fin, et le deuxième est plus orienté vers les pauvres qui, à cause de leur pauvreté et de leur manque, ont tendance à questionner ou à douter de Dieu, ou à vivre dans la peur et l'inquiétude, en se demandant s'ils auront assez à manger, à boire et à porter. Maintenant, il y a des problèmes propres aux riches et des problèmes propres aux pauvres. La tentation du riche est de se confier en sa richesse, et la tentation du pauvre est de douter de la provision de Dieu. Mais le Seigneur dit dans les deux cas, « J'ai une perspective pour vous, que vous soyez riche ou pauvre, je dois être votre focus. » Par exemple, au verset 21, il dit, « Mettez votre trésor au ciel, parce que c'est là que je veux que soit votre cœur. » Au verset 33, il dit, « Cherchez premièrement le royaume. » En d'autres termes, la même chose. « Mettez votre cœur au ciel et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai le reste. » Le point ici, c'est que je veux que vous soyez focalisés sur le ciel. Maintenant, la focalisation du monde, s'il est riche, c'est d'amasser les trésors sur la terre. Verset 19. La focalisation du monde, s'il est pauvre, au verset 32, consiste à chercher ce qu'il va manger, à chercher ce qu'il va boire, et à chercher le vêtement. Mais vous, si vous êtes riche, recherchez l'investissement céleste. Si vous êtes pauvre, recherchez le royaume de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit d'argent et de possession, notre focus est sur Dieu, et non sur ses possessions. Nous n'obtenons pas, et nous ne nous agrippons pas aux choses matérielles. Au contraire, nous cherchons Dieu, et lui permettons de réaliser ses promesses et sa provision pour nous. Maintenant, ayant cet aperçu, j'aimerais vous donner une introduction de la deuxième partie qui sert de transition entre les deux. Et nous ne toucherons pas de versets particuliers avant la prochaine fois. La question de l'argent et des possessions est un sérieux problème pour chacun de nous, et nous en sommes tous conscients. Maintenant, nous avons tous des montants d'argent différents, et c'est selon le dessein divin. Mais nous avons tous le même problème quant à ce que nous en faisons, comment nous l'investissons, comment nous le dépensons, comment nous l'utilisons, et nous devons constamment faire face au fait que l'argent nous soumet, notez-le, à un test de vraie spiritualité. En fait, si vous me demandez, c'est le meilleur test qui existe. Je peux mieux vous parler d'un homme ou d'une femme spirituellement si je vois comment ils gèrent leurs biens physiques qu'autre chose. C'est un grand révélateur du cœur. C'est un problème majeur dans la vie. Et quand quelqu'un réussit à le maîtriser, cela manifeste la force de sa véritable vie spirituelle. En guise de petite illustration, je le dirai de cette façon. De ces 38 versets, 16 d'entre eux parlent de la gestion de notre argent. C'est une emphase importante. Christ, par exemple, avait plus parlé d'argent et des possessions que du ciel et de l'enfer combinés. Dans ses évangiles, un verset sur dix parle d'argent ou de possessions. 288 versets dans les 4 évangiles. Il y a dans la Bible plus de 500 références à la prière. Il y a moins de 500 références à la foi. Et il y a plus de 2000 références à l'argent et aux possessions. C'est une question majeure. Et franchement, les choses ne s'améliorent pas pour nous, pas plus qu'à l'époque de la Bible. C'est même plus difficile. C'est plus difficile. Nous vivons des jours où la technologie nous offre des ressources incroyablement illimitées, tellement que le test est plus sévère qu'il ne l'a jamais été. Par exemple, il n'y a jamais eu une société dans l'histoire du monde qui ait eu autant de choses que nous, les choses, les commodités, les produits. Et aux États-Unis, nous avons probablement plus que n'importe quelle autre partie du monde. Nous vivons dans une affluence jamais étendue, avant l'histoire du monde. La technologie moderne a accru notre compréhension des appareils et des designs, à tel point que nous sommes maintenant à même de créer n'importe quoi, sauf la vie elle-même. Mais savez-vous ce que cela a révélé? Notre affluence incroyable, le développement incroyable de nos commodités a révélé un énorme problème, et c'est que l'homme ne peut pas gérer ce qu'il produit. Nous ne pouvons pas gérer notre argent. et nous ne pouvons pas gérer nos commodités. Simplement dit, nous sommes dans un processus d'ultime autodestruction. Maintenant, nous en sommes tous conscients. Nous entendons chaque fois parler de là où notre pays se dirige et où le monde se dirige avec tous les problèmes économiques et financiers que nous avons. Mais les problèmes ne sont pas d'ordre économique et ne sont pas d'ordre financier. Et c'est la raison pour laquelle personne ne propose la bonne solution. Je veux dire, j'écoute, vous savez, Jimmy Jarvis. J'écoute Jimmy Carter, qui dit à tout le monde que faire. J'écoute tous les projets de loi et tous les sénateurs, et tous les conseils, et tout ce qui est dit. Mais personne n'a encore réussi à mettre le doigt sur le problème. Et voici le problème. Vous créez un environnement avec des ressources illimitées, vous créez un environnement avec des commodités illimitées, et vous lâchez l'homme, et il s'autodétruit. Peu m'importe le type de législation que vous avez, parce qu'il existe une vérité fondamentale sur l'homme que vous devez connaître. Il est essentiellement et totalement égoïste, et l'égoïsme lié à la pauvreté résulte en un mot, la cupidité. Et là où vous avez le cœur pécheur de l'homme, nourri par l'égoïsme, l'égoïsme attaché au produit devient la cupidité, vous avez la fin inévitable de l'autodestruction. La Bible nous dit, par exemple, dans Apocalypse, chapitre 18, que le monde, tout le système économique mondial, connaîtra un effondrement total. C'est vrai. Il sera détruit d'une façon dévastatrice. L'homme est en voie d'une totale autodestruction. Parce que quand on continue à proliférer le potentiel de gagner de l'argent, à proliférer les produits, on met à la disposition de l'homme ce qui nourrit la pire chose en lui, qui est l'égoïsme, et il devient un monstre cupide. Je vous ai dit avant que je suis toujours surpris de voir combien de lieux contiennent des choses que personne ne peut utiliser. C'est à poser quelque part. C'est ainsi. Nous avons un désir maniaque des choses et, bien sûr, nous sommes incités par les médias. D'une part, le président dit « Diminuez les dépenses, serrez la ceinture, retenez-vous ». Et d'autre part, la télé dit « Achetez, achetez, battez-vous pour obtenir cela, vous devez l'avoir, c'est la vie ». Vous ne pouvez pas vous en passer. Et donc l'hypocrisie du système est incroyable. Et l'homme est piégé. Toute sa vie, il lui a été dit qu'il ne sera heureux que lorsqu'il aura toutes les commodités qu'il peut s'offrir. Et maintenant, on lui dit qu'il ne peut pas les avoir. Et il est donc forcé d'être malheureux. Vous voyez, le problème n'est pas financier. Nous entendons parler de conditions sans précédent, qui causent ce qu'on appelle un chaos global financier. En fait, nous vivons la première décennie d'une inflation mondiale à deux chiffres de toute l'histoire. Et j'ai lu dernièrement que Los Angeles est le centre mondial de l'inflation. Les derniers chiffres indiquent une inflation annuelle de 26,1%, vu le rythme du mois dernier. Et cela se produit partout dans le monde. On parle constamment de la dépression, de l'effondrement et du crash. Depuis la dépression, nous enregistrons le taux de chômage le plus élevé. Et j'imagine que, peut-être, nous avons entendu parler que le cartel arabe, qui avait décidé d'augmenter le prix du carburant et celui du pétrole de 500%, fait partie intégrante des débuts de ceci. Et vous voyez, quand ces prix augmentent, le prix de toute autre chose augmente, parce que le pétrole génère tout ce qui transporte chaque produit. Alors tout augmente, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit dimanche dernier que cet officier de la marine m'a raconté qu'il croit que l'intention prochaine de la Russie et d'attaquer Israël, parce qu'ils doivent bloquer la Méditerranée. Ils ont bloqué l'est de l'Afghanistan et le nord. Ils œuvrent pour bloquer l'océan Indien. Et s'ils peuvent le faire pour toutes les nations arabes sur la Méditerranée, ils réussiront à les isoler, et elles ne pourront pas exporter leur pétrole, et eux pourront pénétrer et s'en emparer, parce qu'ils voient un potentiel effondrement du monde dans la fixation incriminée des produits pétroliers. Et donc nous vivons dans cette situation d'inflation. Aux États-Unis, nous avons de monstrueux problèmes d'argent. Je vous assure qu'ils sont littéralement monstrueux. Nous avons un déficit, et nous avons assez d'encre rouge aux États-Unis pour en remplir la mer Rouge. Laissez-moi juste vous donner une idée. En 1901, la dette nationale s'élevait à moins d'un milliard. En 1978, elle s'élevait à 800 milliards. Voilà ce que nous devons aux banques. D'ici l'année prochaine, cette dette est estimée à plus d'un trillion de dollars, voilà notre dette. L'intérêt est de 4 milliards par an. Savez-vous que si on devait liquider les États-Unis, il ne vaudrait même pas un trillion de dollars? Nous n'avons pas de quoi rembourser la dette. Mais cela n'empêche rien. Les prix ont flambé à plus de 100% les 10 dernières années. Une famille moyenne de 4, selon le département américain du travail, a perdu son pouvoir d'achat, bien que les salaires aient été doublés, parce que l'inflation et les taxes ont englouti le gain. Pensez-vous que cela arrête quoi que ce soit? Non, nous achetons toujours plus. Nous nous battons pour les avoir, et le système nous arrange en nous fournissant des cartes de crédit afin que notre cupidité ne connaisse absolument aucune limite. Avant, votre cupidité était comme décroché quand vous étiez à court d'argent, n'est-ce pas? Vous pouviez dire « Je ne suis pas cupide cette semaine, je n'ai pas d'argent ». Maintenant, vous pouvez être cupide tout le temps parce que vous n'avez pas besoin d'argent. Alors, que se passe-t-il quand nous sommes à court d'or? Nous ne faisons qu'imprimer plus d'argent. Et quand finalement nous sommes à court d'argent, nous commençons à imprimer des cartes de crédit. Et voulez-vous savoir ce qui arrivera lorsque les gens seront à court de cartes de crédit? Ils vont voler, parce que c'est cela la cupidité. Nous sommes un peuple cupide. L'achat à crédit a dépassé l'inflation. Et ensuite, cette malédiction de toutes les malédictions sur notre société, la femme active, crée plus de problèmes d'argent. Incite la main-d'œuvre à acheter plus de produits pour confondre la question, autant que dévaster les foyers. Et en passant, les statistiques démontrent, j'ai lu cette information hier, que la famille américaine est dans des soucis financiers jusqu'au cou. Et maintenant, selon les statistiques, 50% de tous les divorces sont causés par ces pressions financières dans les ménages. Alors j'ai pensé que nous pouvions peut-être ajouter une autre ligne à la cérémonie de mariage, jusqu'à ce que la dette nous sépare. Maintenant, nous sommes vraiment pris dans l'étau. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Comme je le dis, vous pouvez liquider tous les États-Unis d'Amérique et nous ne serions toujours pas capables de payer notre dette à la banque. Nous sommes morts par rapport à cela. Nous sommes finis il y a longtemps de cela et nous avons goûté au veau gras. Mais je crois que nous avançons rapidement vers l'autodestruction. Maintenant, quelle est la réponse? Eh bien, les gens disent... Notre président dit, et je sais qu'il est sincère, que tout le monde doit serrer la ceinture. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut faire aux problèmes réels? J'écoute depuis toutes les solutions du monde, et elles sont désespérément inefficaces. Nous sommes dans ce chaos à cause d'une société qui a produit sa potentialité, et à cause du mauvais cœur de l'homme. Maintenant, cette société nous a toujours dit à travers la télévision, la radio, les affiches, et tous les autres moyens que nous serons heureux quand nous aurons des choses. Et voilà qu'on nous dit maintenant qu'on ne peut pas avoir ces choses. Quelle hypocrisie! Nous sommes dans ce chaos, parce qu'ils n'ont cessé de nous dire que le bonheur, la paix et la joie se trouvent dans les biens matériels. Laissez-moi vous donner la philosophie clé de la vie dans le monde. La voici. Vous ne pouvez être heureux qu'en accumulant suffisamment d'avoir pour satisfaire votre style de vie particulier. Voilà tout le problème. Vous ne pouvez être heureux qu'en accumulant suffisamment de biens pour satisfaire votre style de vie particulier. Et donc, nous avons toute cette société de personnes qui ont déterminé ce que sont les biens qu'ils veulent, et ils vont à la quête de ces choses. Nous avons des sous-cultures qui sont des choses étranges qu'ils recherchent. Mais on a dit à l'homme qu'il lui faut avoir des commodités. J'ai vu un dessin sur la chemise de monsieur hier, et je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Après le sexe. J'aime surtout les Harley Davidson. Bien, vous savez ce que cela signifie? Et il avait l'air de quelqu'un qui venait de descendre d'une moto, vous savez, gribouillé de cambouis de la tête aux pieds. Mais pour lui, tout ce qu'il voulait, c'était le sexe et une Harley Davidson. C'est comme ça qu'il voyait la vie. Et s'il pouvait juste avoir assez d'argent pour séduire la bonne fille et acheter la bonne machine, il serait heureux, pensait-il. Et si seulement on pouvait avoir une voiture plus fantaisiste? Avoir une nouvelle garde-robe, faire tel voyage, acquérir une plus grande maison, n'importe quoi, nous serions heureux. Voilà ce qui nous est dit. Si seulement nous pouvions acquérir plus de commodités, et c'est exactement ce que les médias nous pompent tout le temps. Nous restons assis là, vous savez, et nous voyons les grandes publicités, et ils vont prendre le petit Casper Milk Toast, quelqu'un qui est timide et intimidé, et on le met dans cette voiture dernier cri, et il se transforme en un gros dur, et toutes les filles se mettent à crier quand il marche dans la rue. Il sera vraiment heureux. Et si vous avez négligé dans la maison, avec votre peignoir déchiré, vous voyez la publicité pour la mode. C'est ce que le monde n'arrête pas de dire. et maintenant ils nous disent « Vous ne pouvez plus la voir ». Ils sont littéralement, et c'est là la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quelqu'un n'a fait que mentir au monde, et ils essaient de nous couper l'herbe sous le pied. Ils nous ont dit que c'est là que se trouvait la vraie vie, et maintenant, ils disent que nous ne pouvons plus la voir. Ça ne pourra pas marcher. Les gens disent « Oh, il y a tellement de cambriolages de nos jours. Il y a tellement de vols. Pourquoi ? L'homme devient pire. » Eh bien, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous n'arrêtez pas de lui dire qu'il doit avoir des commodités pour pouvoir être heureux, et il finit par voler pour les avoir. Alors les solutions du monde ne m'intéressent pas, parce qu'elles sont hypocrites. Quand ils disent « Retenez-vous, serrez la ceinture, faites ceci, vous savez, renoncez à un Big Mac et mangez un simple cheeseburger, vous ne pouvez pas maintenir votre standard actuel. » Quand ils me le disent, je réponds « Bien, ce n'est pas cela le problème. Vous tournez autour du pot. Le problème, c'est que vous nous avez dit que nous ne pourrons jamais être heureux, à moins d'absorber toutes les possessions pour avoir le style de vie que nous recherchons. Si vous nous dites cela, alors c'est ainsi que nous vivrons, et maintenant, vous nous dites de ne pas le faire. Il y a quelque chose d'hypocrite là. Vous voyez, le problème de l'homme, c'est qu'on lui ment tout le temps. Et malheureusement, les chrétiens l'ont cru, et nous aussi. Nous pensons que le bonheur se trouve dans l'achat des commodités. Le christianisme est même devenu un grand business. Richard Cavadi le dit. Les chrétiens sont coupables d'une mobilité sociale ascendante. Ils essaient de gravir l'échelle le plus rapidement possible pour se retrouver parmi les riches, les célèbres et les populaires. Mais ce n'est pas ce que notre Seigneur avait dit. Notre cœur devrait être au ciel parce que notre trésor y est, et que nous ne trouvons pas le bonheur de notre vie dans les possessions. Je ne suis pas contre les biens matériels. Seulement, je ne les poursuis pas. Si Dieu choisit de nous donner des choses, cela dépendra de sa bonne et gracieuse main. Mais si nous faisons de ces choses l'amour de notre vie, nous n'avons rien compris. Et je pense, fondamentalement, que c'est parce qu'on nous a menti au sujet de là où se trouve le vrai contentement. Écoutez la parole de Dieu. Philippiens 4, 11, 12. Je paraphrase. N'y allez pas. Écoutez juste la paraphrase. Ce n'est pas dire que je manquais quelque chose, dit Paul, car j'ai appris à être toujours content, que j'ai beaucoup ou peu. Je sais comment vivre avec presque rien ou avec tout. J'ai appris le secret du contentement dans chaque situation, que ce soit la satiété ou la faim, que ce soit l'abondance ou le manque. Voilà. Paul dit. Vous savez quoi? J'ai un contentement qui est absolument et totalement détaché des possessions. N'est-ce pas bien? Voilà ce qui distingue un croyant. Il cherche le royaume, et Dieu s'occupe de cela. Il met son trésor au ciel, et Dieu s'occupe de ses besoins. C'est de cela que nous parlons. C'est cela que le Seigneur enseigne. Maintenant, souvenez-vous que les pharisiens et les scribes, à qui Jésus s'adressait le plus ici, étaient envieux. Ils étaient envieux. Ils avaient la perspective blasée. Ils avaient la perspective du monde qui dit que vous ne serez heureux et satisfait que lorsque vous aurez accumulé suffisamment de richesses pour satisfaire votre style de vie souhaité. Mais la Bible dit que votre comportement ne dépend pas des biens, il ne dépend pas des commodités. Votre contentement se trouve en Dieu, pas dans les biens. Maintenant, laissez-moi aller dans ce sens pendant une minute, et ce n'est que l'introduction du texte que nous allons voir la prochaine fois. Notre contentement se trouve en Dieu. Laissez-moi vous dire pourquoi. Voici trois mots que j'aimerais vous donner qui sont en lien avec le sujet du contentement avec Dieu. Premièrement, le mot propriété. Notez-le, propriété. C'est pour dire que Dieu est propriétaire de toutes choses. La Bible dit que Dieu est l'unique propriétaire de toutes choses, n'est-ce pas? Dieu est l'unique propriétaire de tout. De quoi? De tout. Absolument tout. Maintenant, comprenez-vous ce que je veux dire par là? Tout. Tout ce qui existe, Dieu en est propriétaire. Vos vêtements, vos chaussures, votre montre, votre maison, votre voiture, vos enfants, tout, votre jardin, tout, tout. Il est propriétaire de toutes ces choses. Le psaume 24, 1 dit ceci, « À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. » Maintenant, c'est suffisamment simple, n'est-ce pas? Je veux dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications. Tout ce qui est dans le monde lui appartient. Dans 1 Chronique 29, 11, la Bible dit « Tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Sommes-nous d'accord? Si en tant que chrétien je veux être satisfait dans la vie, alors la première chose que je dois réaliser, c'est que tout appartient à Dieu, tout. Alors, observez ce corollaire. Je ne peux donc jamais rien gagner. Avez-vous compris cela? Tout lui appartient. Pour apprendre à être dans le contentement, vous devez reconnaître que Dieu est l'unique propriétaire de toutes choses. Maintenant, écoutez ceci. Si vous croyez un seul instant que vous possédez une seule chose, alors cette possession que vous pensez avoir gouvernera vos attitudes spirituelles. Et ça, c'est mauvais. Je vais nous faire une illustration. Nous avons un monospace parce que nous avons 4 enfants. Et nous avons donc un monospace, un Ford 1977, que notre famille aime. Maintenant, je pense qu'il est important de bien s'occuper de ce véhicule, parce que cela coûte cher d'en acheter un autre. Maintenant, si je dis « Super, ce monospace m'appartient », je vais en prendre soin. Mais pendant que je roule sur la route, quelqu'un sort d'un carrefour et me rentre dedans. Maintenant, si c'est mon véhicule, alors je vais me mettre très en colère contre ce conducteur. Ma réaction sera de lui dire « Vous êtes vraiment stupide. Vous ne pouvez pas regarder où vous allez. » Et ensuite, je vais me rendre compte de l'inévitable. Il n'a pas d'assurance et ma sanctification s'envolera encore plus loin, hors de ma portée. Ensuite, je vais amener mon monospace chez le mécanicien pour la carrosserie et il va utiliser une peinture qui ne convient pas parfaitement et j'aurai un monospace avec une rayure. Ensuite, je me mettrai en colère contre lui parce que je vais rouler sur la route ainsi parce que la carrosserie a été tordue et il n'arrive pas à la ranger. Et cela va user mes pneus et cela va me coûter de l'argent et je serai très en colère. Mais voyez-vous, ce n'est pas mon monospace. Alors si quelqu'un me rentre dedans, je vais juste dire « Seigneur, tu dois faire attention à ta façon de prendre soin de ton véhicule. Désolé, voici ce qui lui est arrivé. J'espère que tu as les ressources pour toutes les réparations. Je dois faire face aux choses dans ma vie, soit de ma perspective, soit de la sienne. Mais tant qu'il en est le propriétaire, je ne me fais aucun souci. » Des gens sont allés un jour voir John Wesley et lui ont dit « Monsieur Wesley, Wesley était en déplacement loin de chez lui. Une tragédie terrible est arrivée. Votre maison a brûlé. » Il a répondu « Vous vous trompez. » Ils ont dit « Non, non, votre maison a brûlé. » Il a dit « Non, ce n'est pas vrai. » Ils ont dit « Bien, nous vous informons que votre maison a brûlé. » Il a répondu « J'entends bien ce que vous dites, mais ce n'est pas ma maison. C'est la maison du Seigneur. Et franchement, c'est une responsabilité en moins pour moi. Je pense que c'est cette approche qu'il faut avoir. » Mais ce n'est pas ce qui nous a été enseigné. Ce n'est pas ce qui nous a été enseigné. L'accumulation des biens, que l'on acquiert soi-même, est ce que le monde nous a légué. Et nous devons rompre avec cette conception. Nous ne possédons rien. Je ne suis pas propriétaire de ma maison, de ma voiture, de mes enfants. Je ne suis propriétaire de rien. Il y a par conséquent d'importants revirements. Si je perds une chose, je ne la perds pas vraiment, parce qu'elle n'a jamais été mienne de toute façon. Si une autre personne en a besoin, elle en a autant droit que moi, parce que cela ne m'appartient pas, cela appartient au Seigneur. Et si le Seigneur sait qu'elle en a besoin, cela lui revient. Je veux dire que si tout ce que j'ai est donné à quelqu'un d'autre, ce n'est pas mon affaire. Le Seigneur devra prendre chez une autre personne pour combler mon besoin, mais je dois commencer avec la compréhension que Dieu possède tout. C'est un problème pour nous aux États-Unis d'Amérique, parce que nous avons reçu tout ce concept du capitalisme qui est devenu un legs américain pour nous, et nous sommes prêts à nous lever et le défendre à tel point que nous oublions que ce n'est pas du tout un principe chrétien. Écoutez maintenant. En 1914, un homme appelé Harvey Calkins a écrit un livre intitulé « The Elements of Stewardship », « Les éléments de l'intendance ». Il a dit des choses très, très saillantes dans ce livre qui, je crois, vous aideront à réaliser ce que je veux dire. Il dit que nous avons reçu un héritage de propriété de notre société et non de la Bible. Voici une citation. Il le dit de cette façon. Il y a eu une seule nation dont le concept de propriété était basé sur la possession par Dieu, et c'était la nation d'Israël. Toutes les autres nations que nous connaissons, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, leur philosophie de la possession des biens et leur loi concernant la pauvreté, était basé sur le concept de possession par l'individu de ce qu'il avait. D'où tenons-nous notre standard de possession et de biens? Il est enraciné dans la loi de l'Empire romain. La philosophie de vie des Romains cristallisée dans la loi romaine et par cette loi, devenue standard dans la civilisation chrétienne, n'était pas basée sur la loi du Seigneur, soit la propriété par Dieu, mais plutôt sur la loi des hommes, soit la propriété par l'homme. Calkins affirme que l'homme moyen, à moins de se défaire et de se libérer des traditions héritées, reste pris dans un faux concept de possession de biens. Son instinct chrétien est en lutte avec la croyance honnête qu'il est le propriétaire de ce qui lui a juste été donné comme possession. Toute son histoire et toute sa culture l'obligent à croire qu'il est le propriétaire de ses possessions. Et ce n'est pas vrai. Oh, dans un sens légal aux États-Unis, parce que c'est notre philosophie, c'est vrai. Mais dans un sens réel, vous ne possédez rien, et moi non plus. Et si je ne le possède pas, alors je ne me soucie pas si je le perds, et je ne me prends pas la tête si je l'obtiens, parce que ce n'est jamais mien de toute façon. Le premier mot, donc, est propriété. Pour comprendre le contentement avec Dieu, il y a un deuxième mot, contrôle. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu est le propriétaire de tout. La deuxième chose, c'est qu'il contrôle toute chose. Il contrôle tout. Il est le propriétaire et le contrôleur. Par exemple, l'Ancien Testament accorde une attention spéciale sur le fait que Dieu contrôle toutes les circonstances, à ses propres fins. Écoutez 1 Chronique 29. Encore une fois, je paraphrase. Nous t'adorons, toi qui es au contrôle de toutes choses. J'aime cela. Nous t'adorons, toi, qui es au contrôle de toutes choses. Les richesses et l'honneur viennent de toi seul. Et tu règnes sur toute l'humanité. Ta main contrôle pouvoir et puissance. Et c'est à ta seule discrétion que les hommes sont élevés et reçoivent la force. En d'autres termes, Dieu, tu contrôles tout. Tu contrôles les richesses. Tu contrôles l'honneur. Tu contrôles la puissance et la force, la grandeur, le pouvoir. Tu fais la loi. Tu déplaces toutes les commodités. Daniel, au chapitre 2. Si vous étiez avec nous, vous vous en souviendrez. Louez Dieu, et voici ce qu'il dit. J'aime ceci. Dans Daniel 2:20, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Écoutez ceci maintenant. » Les événements du monde sont sous son contrôle. En d'autres termes, Daniel dit « Dieu, tu contrôles toutes choses. » Et plus tard, dans le livre de Daniel, quand Daniel est jeté dans la fosse aux lions, ce type de théologie le maintint en bonne posture, n'est-ce pas? Il descendit dans la fosse aux lions et il était dans des circonstances terribles. On ne peut rien imaginer de pire qu'être jeté dans une fosse avec quelques lions affamés. Et il y avait plusieurs de ces lions en passant. Assez pour dévorer toute une famille qui y était jetée. Ils auraient tous été mangés, avant même de toucher le sol, ce qui veut dire que ces lions étaient nombreux. Bien, on a jeté Daniel dans cette fosse, et il y a passé de bons moments. Il était à l'aise, il était détendu. Il s'était probablement couché sur un beau, grand et poilu lion pour s'endormir. Et le roi qui était dans des circonstances parfaites, qui vivait dans le palais de Babylone avec des jardins suspendus, et toute la merveille et l'apparat qui pouvait être le sien, en tant que plus grand monarque du monde. Au même moment où Daniel passait une merveilleuse soirée avec les lions, le roi ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas boire, ne voulait pas qu'on le distrait. Pourquoi? Quelle est la différence? Daniel savait que Dieu contrôlait toutes choses. L'autre gars était une épave, parce qu'il n'avait aucun sens d'un contrôleur divin. Les circonstances étaient au-delà de son contrôle. Voilà la différence. Daniel savait que Dieu était au contrôle. Maintenant, écoutez, si vous savez que Dieu possède tout et contrôle tout, alors vous ne mettrez pas votre espérance dans le luxe, et vous n'aurez pas peur si vous n'avez pas assez de nécessité. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Dieu dit qu'il pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, en Jésus-Christ. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Il prendra soin de tout ce qui est nécessaire pour votre vie. Dieu vous dispensera ce qu'il sait que vous devez avoir pour investir dans son royaume. Dieu prend soin de tout cela. Ce n'est pas un souci que vous devez vous faire. C'est la raison pour laquelle il dit 3 fois dans ce passage « Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. » Maintenant, il y a un troisième mot que je veux que vous voyez. C'est le mot « provision ». Propriété, contrôle et provision. Dieu est propriétaire de tout. Maintenant, observez ceci. Il possède tout et contrôle tout pour pourvoir pour ses enfants. L'avez-vous compris? Il possède tout et contrôle tout pour assurer la provision. L'Ancien Testament lui donne beaucoup de noms, mais un des noms les plus beaux de Dieu est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh signifie l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoit. C'est tellement une caractéristique de Dieu que c'est son nom. Maintenant, nous ne nierons jamais que Dieu est amour, et nous ne nierons jamais que Dieu est glorieux, qu'il est grand, puissant, saint, et nous ne nierons jamais que Dieu pourvoit. Mais certains pourraient questionner, douter, et avoir peur que Dieu ne pourvoira pas leurs besoins. Et c'est exactement ce que le Seigneur dit dans les versets 25 à 34 quand il dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ?» ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Le Seigneur est toujours Jéhovah Jireh. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et voilà pourquoi David dit « Je n'ai jamais vu le peuple de Dieu mendier quoi ? Le pain ?» parce que Dieu est Jéhovah Jireh. Dans Luc 12, 30-31, encore une paraphrase du texte. L'humanité entière peine pour son pain quotidien. Les amis, le monde creuse, gratte, racle, amasse, et s'assure d'avoir assez. Mais par opposition à cela, votre Père sait ce dont vous avez besoin, et il vous donnera jour après jour ce qu'il vous faut. Quelle promesse! Quelle merveilleuse et incroyable promesse! Il connaît vos besoins. Écoutez, je n'ai pas besoin de tout posséder afin de combler mes besoins. Je n'ai pas besoin de tout contrôler pour combler mes besoins. Je peux recevoir ce que Dieu me donne. Je peux l'investir dans son royaume éternel. Je peux écarter toute inquiétude de mes faits et je peux adorer Dieu avec ma vie et avoir la promesse absolue qu'il pourvoira tous mes besoins et même au-delà. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Dans 1 Timothée 6, la Bible dit que « Si nous avons le manger et le vêtir, soyons-en satisfaits. Êtes-vous satisfaits? L'êtes-vous? Ou désirez-vous plus tout en reniant Dieu dans le processus ?» Lors de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de personnes avaient été tuées, comme vous le savez, et le meurtre de plusieurs adultes avait fait beaucoup d'orphelins. Les alliés de la guerre voulaient faire quelque chose pour aider les petits orphelins, et dans ce cadre, ils ont créé des camps où ils rassemblaient les orphelins. Ils les nourrissaient dans ces camps et essayaient de trouver un moyen de les placer. Et quand ils commençaient à les nourrir de leur malnutrition, les enfants commençaient à se développer et à grandir, et ils étaient de plus en plus capables de consommer plus de nourriture. Ils recevaient les meilleurs soins et la meilleure nourriture. Mais dans l'un de ces camps particuliers, il y a eu une préoccupation extrême, parce que des enfants n'arrivaient pas à dormir. Ils prenaient trois bons repas, mais dans la nuit, ils restaient éveillés et ne trouvaient pas le sommeil. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était, si c'était un problème physique ou d'une autre nature. Quand ils avaient fini les recherches sur le plan physique, ils amenèrent des psychologues pour faire une étude de ces orphelins, afin de savoir pourquoi, malgré toute cette nourriture et la sollicitude, ils n'arrivaient toujours pas à dormir. Les psychologues trouvèrent une solution. Chaque nuit, quand on mettait les petits-enfants au lit, une personne devait passer à travers les lits et mettre, dans chaque petite main, un gros morceau de pain. Et ainsi, la dernière chose que ces enfants devaient expérimenter la nuit était de fermer la petite main autour du pain, le serrer, et invariablement, en quelques jours, ils dormaient tous toute la nuit. Pourquoi? Même s'ils étaient suffisamment nourris en journée, leur expérience leur avait enseigné qu'il n'y avait aucun espoir pour l'avenir, et inquiets de ce qui pourrait arriver le jour suivant, ils n'arrivaient pas à dormir. Ils n'arrivaient pas à profiter de ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient peur du futur. Oh, je connais beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Les petits-enfants n'arrivaient pas à dormir, parce qu'ils avaient passé de nombreux jours sans manger, et quand ils avaient une miche de pain resserrée dans leurs mains, et qu'ils étaient sûrs d'avoir au moins le petit-déjeuner le lendemain, alors ils s'endormaient. Savez-vous ce que Dieu a fait pour nous? Je crois que Dieu nous a donné un morceau de pain dans notre main. Et je ne vais jamais au lit la nuit, sans ce petit bout de pain. Et vous savez ce qu'est ce petit bout de pain? Voilà ce que c'est. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. Et si j'ai ce petit bout de pain dans ma main, je peux dormir. Je n'ai pas besoin d'amasser pour le futur. Dieu est propriétaire de tout ce qu'il y a dans le monde. Et Dieu contrôle toutes ces choses. Et il le fait pour pourvoir pour moi. Pourquoi? Parce que je suis son enfant. et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit « Ne savez-vous pas que votre Père céleste les nourrit ?» Verset 26. « Les oiseaux. Et ne valez-vous pas mieux qu'eux ?» Je veux dire que, s'il nourrit les oiseaux, ne va-t-il pas nourrir ses propres enfants ? Quelle profonde vérité ! Il est le propriétaire, le contrôleur et le pourvoyeur. Alors la vie pour moi en tant que chrétien ne consiste pas en l'abondance de choses que je possède. Luc 12, 15. Ce n'est pas ça la vie pour moi. La vie pour moi consiste à me contenter de ce que j'ai. Hébreux 13, 5. Maintenant, si le Seigneur décide de me donner plus, c'est bon. Je dois me souvenir de toute façon que tout lui appartient et doit être utilisé pour sa gloire et pour son royaume. Et parfois, cela se résume à ceci. Bien, il y a un besoin ici. Un tel a un besoin. Et puis quelque chose me dit. Oui, mais qu'en est-il de l'avenir? Pourquoi? Vous pourriez manquer à manger. Ou vous ne savez pas ce qui va arriver. Ou encore, vos enfants pourraient tomber malades. Ou quelque chose peut arriver. Mais un tel a un besoin. J'ai cette chose dont ce dernier a urgentement besoin. Et je contemple l'avenir. Ce n'est pas une décision pour moi. Je vais prendre cette ressource qui appartient à Dieu et je vais m'en servir à la façon de Dieu pour pourvoir, et dans l'avenir, Dieu devra pourvoir autrement. Quand on en arrive là, certaines personnes n'arrivent pas du tout à prendre la décision. Et ainsi nous tendons à amasser et empiler des montants excessifs. Je ne veux pas dire que c'est mal de planifier pour l'avenir. Je pense que Dieu s'attend à ce que nous le fassions. Le livre des Proverbes nous enseigne de le faire, mais je parle du cas où vous vous y accrochez, et quand vous placez en cela votre espoir, votre foi, et vous vivez dans la peur, et vous ne parvenez pas à la relâcher, et vous avez le sentiment que cela vous appartient. Vous savez, je dois avouer que quand je vois un besoin, et quelqu'un lance un appel pour combler ce besoin, il y a quelque chose en moi qui veut tout déverser dans cette direction. Cela vous arrive-t-il? C'est la réaction de mon cœur, et je ne pense pas toujours à l'avenir. Au risque d'être insensé. Je pense que c'est ainsi que nous devons apprendre à vivre. Amasser l'argent et les possessions n'apporte aucune satisfaction. Être satisfait revient à verser votre trésor dans la voûte céleste, où il produira des dividendes éternels. Se contenter revient à ne pas s'inquiéter de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez ou de ce que vous porterez, mais de tenir simplement dans votre main ce petit bout de pain chaque nuit quand vous allez dormir, et qui signifie que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, et quelles que soient les ressources que j'ai, je les mets à la disposition de quiconque en a besoin. Alors, une bonne relation avec Dieu est à la base du vrai contentement, lui faisant confiance, comme au propriétaire, au contrôleur et au pourvoyeur. Cela, les amis, est la réponse de la Bible, la réponse de la Bible à l'inflation, la réponse de la Bible à la cupidité, la réponse de la Bible au vol, la réponse de la Bible à l'égocentrisme et à l'orgueil. Croire que Dieu pourvoira chacun de vos besoins. Après tout, il est votre Père. De quoi devez-vous vous soucier? J'ose dire que ces petits orphelins avaient peur, parce qu'ils étaient orphelins. Ils n'avaient pas de père pour pourvoir. Mais nous si. Maintenant, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des possessions. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir de l'argent. Je dis juste que c'est mal de les convoiter, de s'accrocher à eux et de bâtir votre vie autour de ces choses. Je crois vraiment que c'est un problème majeur dans l'Église de nos jours. Je pense qu'au lieu d'offrir une alternative, au lieu de se distinguer, au lieu d'être séparé du monde, le christianisme est devenu matérialiste, à plusieurs égards, complaisant. C'est une chose effroyable. Je ne sais pas si les chrétiens sont encore désireux d'être le rebut du monde. Je parle de cette idée de gravir l'échelle. John White dit, et il a écrit un livre très utile. Vous devez le lire. Il s'intitule « The Golden Cow », la vache d'or. Et John White dit dans ce livre que nous nous sommes prosternés devant la vache d'or du matérialisme et nous avons besoin que Christ fasse un fouet pour nettoyer encore une fois le temple. Laissez-moi vous lire quelques paragraphes de son livre. L'Église du XXe siècle a aussi oublié à quel maître elle appartient, se peignant comme une prostituée du maître Mammon, ou pour utiliser une autre image. L'Église est allée à la poursuite d'une vache d'or, pas un veau, s'il vous plaît, mais une vache. Et je l'appelle une vache d'or, parce que ses mamelles sont remplies d'or liquide, particulièrement en Occident, où elle broute dans les prairies luxuriantes avec des billets verts. Ses prêtres la calment en égorgeant des principes pieux, et elle observe le sang dans une satisfaction tranquille. Des rangées inquiètes d'adorateurs se prosternent devant leur seau. Bien que l'or gicle infiniment, les adorateurs tremblent de peur qu'un jour la provision des victimes à sacrifier ne s'épuise avant de l'avoir apaisée. Ensuite, White dit « Il m'arrivait d'être en colère contre les fondamentalistes et de me sentir outragé par certaines institutions évangéliques à cause de leur attitude matérialiste. Mais il y a longtemps que ma rage a baissé. Je suis même passé dans une phase hautaine et condescendante. Que Dieu me pardonne. Qui suis-je pour m'enrager ou pour être condescendant? Je connais des enfants dont les mères sont des prostituées. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait de découvrir que votre mère va avec des hommes pour avoir l'argent? En fait, de tels enfants expérimentent une variété d'émotions qui vont de l'indifférence au rejet amer, à la honte, à la peine mêlée de compassion. C'est dur d'arrêter d'aimer sa mère, même si elle est prostituée. On n'a qu'une mère. Le fondamentalisme est ma mère. J'ai été nourri dans la chaleur de son sein. Elle a pris soin de moi avec amour et m'a enseigné tout ce qu'elle savait. Humainement parlant, je lui dois la vie, ma nourriture spirituelle et plusieurs de mes joies primitives. Elle m'a présenté au Sauveur et m'a enseigné à me nourrir du pain de vie. Notre relation n'était pas parfaite, mais elle était la seule mère que j'avais. Je m'accrochais déjà à elle alors, et je trouve difficile de ne pas m'appuyer sur elle maintenant. Si des fois elle m'a laissé tomber, je suis suffisamment âgé pour savoir qu'aucune mère n'est parfaite. Mais découvrir qu'elle était une prostituée, qu'elle se laissait utiliser par l'argent, était une autre affaire. Et alors que le mouvement évangélique plus vaste prenait graduellement sa place dans ma vie, c'était douloureux de faire deux fois la même découverte. C'est très fort et vrai. Je crois que de nos jours, les églises font face à un matérialisme collectif grave de la part de leurs membres. Nous sommes comme l'homme de Luc 12, dont la Bible dit qu'il ne faisait que construire des greniers, à chaque fois plus grands. Et ceci n'est pas pour les chrétiens. D'où tirerons-nous notre particularité dans le monde si nous devenons des proies de ce qui domine tant la pensée du monde? Encore une fois, je ne dis pas que nous devons être pauvres. Je vais être très personnel à ce sujet. Prenez le prédicateur, par exemple. Certaines personnes pensent que le prédicateur devrait être très pauvre. Ils font de lui un homme de prière. Bon, c'est OK. D'autres personnes pensent que le prédicateur doit être très riche, parce que s'il est riche, il attirera des riches, et les riches couvriront le budget. Un pasteur huppé, une congrégation huppée, n'est-ce pas? John White dit quelque chose que je trouve intéressant. Il dit « Si vous voyez un problème à ce que vous devez payer à votre pasteur, quel mal y aura-t-il à lui donner 50% de plus que n'importe quelle somme raisonnable? Avez-vous peur que cela le rende très conscient de l'argent? Si c'est le cas, pourquoi donc l'avez-vous nommé en tant que votre pasteur? Si vous êtes en position de choisir un pasteur, vous devez aussi savoir que Dieu s'attend à ce que vous discerniez s'il a une faiblesse avec l'argent. Et s'il a une faiblesse avec l'argent, vous n'auriez jamais dû lui confier la responsabilité du pastorat, parce que la Bible dit qu'il ne doit pas être avide d'un gain honteux. Certaines églises aiment donner des salaires élevés, parce que le niveau de vie du pasteur influencera le type de personnes qui viendront à l'église. Mais Dieu s'intéresse aux motifs, pas aux montants. N'acceptez-vous pas l'idée que votre pasteur ait beaucoup d'argent? Alors, doublez son salaire pour lui démontrer votre amour pour lui. Mais vous dites, n'existe-t-il pas de meilleur moyen de montrer l'amour? Bien sûr qu'il y en a. Mais pourquoi ne pas lui démontrer votre amour de cette façon aussi? Me demandez-vous ce qui adviendra si le salaire est trop élevé pour lui? Alors je répondrai que c'est le problème du pasteur. Il pourrait, par exemple, donner plus d'argent. Priez qu'il ait la sagesse de gérer ce dont il n'a pas besoin. Maintenant, écoutez. Je vous l'ai lu parce que Grace Church me paie déjà beaucoup trop d'argent. Et il y a de cela plusieurs années, j'ai demandé à l'un des hommes « Pourquoi me payez-vous autant d'argent ?» Il a répondu « Parce que nous voulons voir ce que vous faites de ce dont vous n'avez pas besoin. C'est juste. C'est juste. J'ai cette responsabilité, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas du montant que vous avez. Il s'agit de là où se trouve votre cœur. Je peux recevoir du Seigneur. Vous savez, dans le christianisme aujourd'hui, il y a des gens qui veulent venir prêcher dans notre église. Mais leur cachet minimal s'élève à 5 000 $. il y a des gens qui veulent venir chanter et demandent $8,000 et plus. Maintenant, tous ne sont pas ainsi. Oh, il y a beaucoup de gens qui donneraient leur témoignage pour $1,500, plusieurs même. Vous voyez, nous nous retrouvons dans une situation. J'ai parlé à un éditeur récemment qui m'a dit que pour qu'un auteur signe en promettant d'écrire un livre chrétien pour lui, l'éditeur devait lui verser une avance de $200,000. Maintenant, les livres sont un ministère merveilleux, mais si vous écrivez un livre pour gagner de l'argent, c'est un mauvais motif. Si vous écrivez un livre pour honorer Dieu et faire avancer son royaume, et s'il choisit de vous donner l'argent par ce moyen, c'est merveilleux, et vous utilisez cet argent comme sa possession, sous son contrôle, afin de pourvoir pour son corps. Vous voyez, tout dépend de votre perspective. Et laissez-moi vous dire ceci pendant que nous concluons notre réflexion. Tout ce que vous avez, tout votre argent et toutes vos possessions, observez ceci, plus que toute autre chose, écoutez ceci, vous n'en avez pas besoin pour combler vos besoins. Dieu le fera de toute façon, n'est-ce pas? Alors pourquoi l'avez-vous? Pourquoi avez-vous votre maison, votre voiture, votre compte en banque? Pourquoi avez-vous ces choses? Je vais vous dire pourquoi. C'est un test de votre spiritualité. L'avez-vous compris? Voilà ce que c'est. C'est un test de votre spiritualité. Comment agissez-vous? C'est là la question. Vous n'en avez pas besoin, parce que Dieu prendra soin de vous de toute manière. C'est un test, et Dieu teste la légitimité de votre statut, parce que vous possédez. Effrayant, n'est-ce pas? Je crois que l'argent est peut-être le meilleur révélateur de la vraie spiritualité, et c'est ce que le Seigneur va nous montrer quand nous allons progresser dans ce texte. Comment gérer le luxe, verset 19-24. Comment gérer les nécessités, verset 25-34. Maintenant, écoutez, je vais finir avec cette pensée. Une lecture attentive de la Bible révèle que les riches sont condamnés. C'est vrai, les riches sont condamnés dans la Bible. Mais écoutez, ils ne sont jamais condamnés à cause de leur richesse. Ils sont condamnés pour leur mauvais usage des richesses. L'avez-vous compris? Le mauvais usage. Nous vivons dans une société dans laquelle nous connaissons les richesses. Que Dieu nous aide à ne pas en faire un mauvais usage. Les pauvres sont aussi condamnés dans la Bible, non à cause de leur pauvreté, mais parce que, dans leur pauvreté, ils questionnent l'équité et l'amour de Dieu. Être pauvre est un test de confiance, autant qu'être riche. Quand vous avez tous les biens, vous vous confiez en eux, et quand vous n'en avez pas, peut-être vous ne faites pas confiance à Dieu. Peu importe comment vous le prenez, les possessions et l'argent sont un test spirituel. Maintenant, j'espère que vous vous êtes examiné par rapport au luxe dans le dernier texte, et que vous allez vous examiner par rapport aux nécessités dans le prochain texte. Voilà pourquoi Proverbe 30:8-9 dit à l'Éternel, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, ne me donne aucun des deux à l'extrême. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu? » Vous voyez, avoir est un test. Ainsi en est-il de même pour ne pas avoir. Celui qui possède est tenté de ne pas faire confiance à Dieu, et celui qui ne possède pas est tenté de déshonorer le nom de Dieu. Nous sommes donc éprouvés. La question est de savoir comment nous faisons. Nous avons beaucoup plus en avançant dans ce texte. Permettez que je vous dise ce que sera la semaine prochaine. Trois raisons pour lesquelles vous ne devez jamais vous inquiéter au sujet de l'argent. Trois raisons pour lesquelles vous ne devez jamais vous inquiéter, et nous verrons cela la prochaine fois. Prions ensemble. Notre Père, ceci a été un temps très pratique ce matin, et pourtant un véritable moment d'adoration. Nous ne pouvons pas convenablement t'adorer à moins de le faire avec notre argent et nos biens. Nous t'adorons en amassant un trésor au ciel et en cherchant premièrement le royaume et te laissant ajouter toutes ses nécessités. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer avec un cœur vrai et pur. Merci de ce que tu possèdes toutes choses, tu contrôles toutes choses, tu pourvois tous tes enfants. Et Seigneur, je sais qu'il y en a ici, parmi nous, ce matin, qui ne sont pas tes enfants. Tu les aimes et tu es mort pour eux, mais ils n'ont jamais dit oui. Ils n'ont jamais ouvert leur cœur pour te recevoir. Ils ne font pas partie de ta famille, et ils n'ont aucune garantie de ta provision. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour où leur cœur est ouvert par l'Esprit de Dieu, où leur cœur devient réceptif. ce jour où ils croient en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour eux, et qu'ils entrent par le miracle de la naissance dans ta famille et se mettent sous la providence de ta sollicitude. Nous prions, Seigneur, que ceci se produise dans plusieurs cœurs ce matin, que certains qui sont venus ici n'étant pas de la famille rentrent étant de la famille, et certains, Père, qui sont déjà dans la famille, mais qui ont gaspillé les ressources, qui ont été possessifs et égoïstes et cupides, et cela concerne chacun de nous, y compris mon propre cœur, rentre avec la nouvelle résolution de vivre à ton honneur, sachant que notre trésor est au ciel, et nous devons chercher ton royaume et sa justice. Merci d'être si gracieux, Père, au point de ne pas nous donner uniquement ce que nous pensons posséder, mais de nous donner le monde et l'éternité. Au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.